Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, bienvenue dans Un bon moment. J'espère que vous allez bien. On est savamment installés.
Ça va, Navo? Ça faisait vraiment une intro, genre ça m'a rappelé Winnie l'ourson quand je rechauffe et disait bonjour les enfants.
C'est exactement ça.
Tu sais, on aurait dit qu'il y avait
bonjour
un feu de cheminée.
Bonjour à tous.
Un petit chef de feu. Voilà, on est bien.
Je viens de boire, en fait, je viens de boire une petite tisane, donc je suis bien.
Ouais, on aurait dit que tu avais un brandy.
T'sais. Écoute, c'est ça, c'est clairement un brandy.
Bon cognac.
Ça va, Navo?
Écoute, super, moi je suis en présence de Clem.
Quand on est avec Clem, le meuclé, comme on dit.
C'est vrai, c'est mon petit nom.
Clément Cotentin, comment ça va, mon pote?
Bah, ça va, cool, hein. Je suis toujours impressionné quand je suis avec vous.
Non,
c'est bizarre.
Moi, je comprends.
Ouais, non, moi, mais grave, hein, je suis obligé de vous le dire comme ça, je le dis et ça détend l'atmosphère.
Vas-y.
Si je vous le dis pas,
moi-même, ça
m'impressionne
des fois. Je me regarde dans la glace, je suis impressionné.
Bah, c'est normal.
Tu m'impressionnes un peu aussi.
C'est vrai?
Bah, ouais, je me dis quand même, le mec, c'est le mec de bref, quoi.
Clément, on se connaît, on va pas faire les gars, on se connaît pas, on se connaît.
On se vous voit.
Vous êtes actuellement à l'affiche d'un documentaire. Tu viens de sortir un documentaire sur un rappeur qui s'appelle Orelsan. Et tu incarnes le frère d'Orelsan dans ce documentaire. Pourquoi? Pourquoi d'avoir choisi ce rôle de frère?
Déjà parce que je trouvais que c'était un rôle qui me correspondait bien.
Ouais.
Voilà, je lui ressemble pas du tout. On a les mêmes parents, donc.
Alors donc vraiment, ça s'y prêtait bien.
Exactement. Donc Amazon a dit c'est lui qu'il nous faut. C'est marrant. Je me suis posé la question, mais pas très longtemps. Je me suis dit si je fais un docu sur Aurel. Faut absolument que je le dise très vite que c'est moi qui le fais. Tu vois, je pouvais pas faire un docu, même avec mes images, etc. Et puis à la fin, tu vois, c'est marqué réalisé par Clément Cotentin. Ça aurait été trop bizarre, quoi. Les gens auraient fait. Ah bah
et
oui,
en
évidemment
plus pour
qu'il
moi,
l'aime bien.
C'est une plus-value de malade.
Mais de fou.
Ouais, bah ouais, mais à la base, je pensais que c'était une moins-value.
Oh. Mais non. Le fait que tu sois son frère, il y a vraiment un truc de je suis avec lui. Tout le début, tu dis, mais c'est pour ça qu'on a les images du début. Genre, il n'y a pas un journaliste qui allait le filmer. Il n'a même pas encore de MySpace. Et le gars, il se dit, tiens, c'est quoi, je vais le filmer, tiens.
Je vais y aller. Ouais, faudrait qu'il ait beaucoup de chance, quoi. Mais donc, c'est un documentaire qui raconte la carrière de mon frère à travers mes yeux, de petit frère naïf qui traverse les étapes avec lui et qui apprend petit à petit, bah, justement, comment on crée, comment on gère les accidents de la vie d'un artiste. Et puis, qui grandit avec ses potes, surtout. C'est ça le plus important.
C'est une vraie réussite, hein, ce documentaire. Pour moi, c'est ton premier vrai, vrai gros documentaire. C'est-à-dire, là, c'est un travail de 3 ans, quasiment, même de 20 ans de rush. je pense que c'est unique dans une vie d'avoir l'occasion de traîner avec un artiste pendant 20 ans et de le voir évoluer. Donc déjà, le pitch est unique. La réalisation, elle est chambée. Enfin, je trouve que tu t'es vraiment... t'as tout déchiré, quoi. Bravo.
Bah, merci.
C'est vraiment...
C'est gentil.
Je peux pas dire... Allez voir ce documentaire, il est formidable. On va parler un peu de la genèse de Zoku, un peu de ce rapport que t'as avec la réal de plus en plus. Il y a un truc qui est vachement bien dans ce documentaire, c'est que c'est pas l'histoire d'un artiste, en fait. C'est l'histoire d'un frère... qu'aime son frère, qui le soutient avant même que son frère croit en lui et qui va faire en sorte qu'il va valoriser son frère en permanence, en fait. Et tu le valorises tout le temps et t'y crois. T'es le seul à y croire au début.
Ouais, d'ailleurs, c'est assez fou parce que c'est quoi qui t'anime au départ quand tu te mets à filmer ton frère? Parce que c'est pas comme si le début, on a que des trucs de famille et des trucs que t'as filmé. On sent que t'as vraiment filmé leur galère avant même qu'ils commencent à avoir un studio et tout, comment ils traînent ensemble et tout. C'est quoi qui te motive à les filmer à ce moment-là, parce que d'ailleurs c'est marrant, dans le docu tu les montres en train de dire mais pourquoi tu filmes ça. Alors ça prend un sens quand on regarde, on fait mais merci d'avoir filmé ça Clem. Mais même eux ils sont là, pourquoi tu filmes ça,
quoi, tu filmes,
c'est vraiment
ils sont
ma petite revanche
dit.
Dès qu'ils disaient mais pourquoi tu filmes ça, je dis mets-le parce que donc c'est mon documentaire, c'est à travers les yeux du petit frère, mais on aura le temps d'en reparler, mais je l'ai co-réalisé avec Christophe Offenstein,
ouais,
qui avait fait Commencer loin avec Aurèle. On l'a monté pendant 2 ans avec deux monteurs qui s'appellent Hugo Le Mans et Maël Lenoir, et puis il y a plein d'autres mondes dont on aura le temps. Il y avait une documentaliste aussi qui était incroyable, Marie Corber. Enfin voilà, c'était c'est en fait j'ai appris que c'est une des premières leçons de ces 2 ans, c'est que pour faire un truc super perso, en fait à la base je voulais le faire tout seul. Je dis non, je vais le monter, je vais m'enfermer dans une pièce pendant 3 ans. Enfin tu vois le mythe un peu du mec qui fait tout seul.
Trop dur.
Et mais ça aurait été nul. Été nul parce que t'as besoin de te rendre compte des choses en discutant avec les autres. Ah ouais, mais toi tu fais comme ça. Ah, dans ta famille c'est comme ça. Ah mais les gars, mais pourquoi ils traînaient tous chez Aurel? Bah en fait parce qu'Aurel il avait internet. Et alors bah les autres ils avaient pas internet, donc les gars ils venaient surtout à la base pour venir sur l'ordi d'Aurel. Enfin tu vois, et ils disent ah bon, et tu dis ah ouais c'est vrai, c'est peut-être pas normal, faudrait peut-être que bon je le dis pas dans le doc que c'est pour internet, mais en fait tout le monde venait chez Aurel aussi parce qu'il y a
l'avantage d'être au plus près de lui. Ça devient aussi un inconvénient parce qu'il y a plein de choses qui te semblent naturelles et évidentes puisque t'as grandi avec lui, mais qui en fait le sont pas.
Bah grave, ouais. Notamment
le fait qu'il te frappait aussi après l'école, quand tu dis dans le documentaire mon frère me frappait avec des savons dans des serviettes.
Spin-off dark, je re-raconte tout avec les moments les plus dark. Et ce qui m'a fait y croire,
ne
c'est
montre vraiment,
vraiment
jamais ça à personne.
Non, ça vraiment tu le montres pas.
Celui-là vraiment.
Et c'est son avocat qui ne montre vraiment jamais ça à personne. Non, et c'est vraiment les gars en fait. C'est enfin quand je dis les gars, donc c'est Ablaï, donc qui est son manager, mais qui est multicarte, qui est aussi son backer sur scène, qui est son meilleur pote, qui est son confident, qui est celui qui va s'occuper.
Qui est un mec bonne ambiance.
Ouais, grave. Qui va s'occuper des feats, qui va s'occuper des éditions, enfin voilà, c'est vraiment à la fois un homme à tout faire et puis le mec qui fait le lien entre tout. Il y a Scred qui fait les instrus, mais pas que, il s'occupe aussi un peu d'Aurel au sens large. Et il y a Gringe, donc qui est son acolyte de Casseur Flotteur, avec qui ils ont un groupe, qui est un génie du rap.
Dont Aurel est fan.
Et moi qui suis genre ultra fan depuis le début, quoi. Et qui a juste du mal à enclencher un peu la machine, quoi. Et en fait, c'est 4 mecs-là avec des personnalités hyper différentes. C'est ça où je me suis dit, mais attends. Ça s'emboîte trop bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les qualités de l'un compensent les défauts de l'autre. Tu vois, il y a vraiment un truc. Et dans leur façon de fonctionner, les gars, justement, acceptent les défauts des autres.
C'est ça qui est
bon. Parce qu'ils ont des qualités. Enfin, je sais pas comment
c'est
dire.
Ça
tu vois,
c'est ça qui est bien, qui est vrai dans ce documentaire. C'est que vous êtes très sincère, très vrai. Et quand à un moment donné, je me rappelle, il y a Scred qui dit, on l'aime comme ça, Gringe, il est comme ça. Et ben, c'est vraiment l'amitié. C'est ça la définition de l'amitié. Donc, c'est pas un documentaire qui parle que d'un rappeur qui réussit. Ça parle de choses qui sont importantes même dans la vie. Donc, c'est vraiment l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié? Pour moi, c'est ça l'amitié. C'est, ouais, mon pote, il est comme ça. Ouais, des fois, il est tête en l'air. Ouais, il est, mais c'est mon pote. C'est comme ça qu'on l'aime.
Et ouais, c'est vraiment ça que je voulais montrer pour ceux qui connaissent un petit peu Aurel. C'est vraiment une de ses qualités premières. En fait, c'est d'aller chercher. Il m'a appris à aller chercher le positif chez les gens, quitte à prendre un petit, enfin à prendre beaucoup même de négatifs et tout. Et c'est ça que je voulais montrer aussi. En fait, c'est vraiment le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, quoi. Enfin, on en revient souvent à des vérités un peu générales, un peu basiques, ça dépend vraiment de la façon dont
tu regardes. En fait, c'est des revers même. C'est-à-dire que c'est d'accepter que les défauts, c'est des revers de qualité et inversement. Et que donc, du coup, tu peux pas attendre de quelqu'un qu'il ait que des qualités. Il y a certaines qualités que tu vas trouver chez quelqu'un. En échange, il y a des défauts. Et, souvent, on en parle. Pour moi, tu cherches pas quelqu'un de parfait. Tu cherches quelqu'un où tu arrives à absorber ses défauts. C'est des défauts que tu arrives à tolérer contre des qualités que tu admires. Et du coup,
ça.
La dynamique, elle est là, quoi.
Ouais, je pense que vous, ça doit fonctionner comme ça aussi, quoi. Vous devez être, vous êtes à la fois des exacts opposés et des frères jumeaux par ailleurs. Enfin, je sais pas si.
Je pense que, moi, je t'admire. Ouais, j'admire Navo. Donc, je pense qu'il y a un peu d'admiration aussi à ce niveau-là.
Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc qui se dégage, je trouve, dans le docu, c'est qu'on sent qu'ils s'admirent tous les uns les autres.
Ouais, c'est clair.
Ils ont tous des raisons de s'admirer, tu vois.
Tous des cassos, en fait, parce qu'en plus, ils font des conneries dans tous les sens, ça, quand même. Je dis, mais vous êtes des cassos, là, vous faites du golf dans la rue et tout, là, vous pétez des vitres et tout dans tous les sens. Quand ils vont voler un ordinateur à l'IUT, mec, ça, j'étais là, genre, ils vont le dire à la caméra, ça, vraiment, genre, ouais, il y avait un UT, ils sont habillés, ils ont besoin de faire de la musique, Gringer Aurel, ils ont un ordinateur, ils se déguisent en dépanneur, il a carrément une pancarte marquée en panne, ils vont à la UT, ils prennent un ordinateur, mais c'est complètement fou, cette histoire.
Ouais, ouais, ça fait partie des trucs...
Tu le savais? T'étais au courant de ça ou pas?
Ouais, ouais, je connaissais ce mythe fondateur. Je le connaissais avant, mais pas en détail. En fait, avec mon frère et même avec les gars, on a toujours eu une relation où je restais quand même pendant longtemps le petit frère, enfin surtout avec mon frère, où il me racontait pas tout, etc. Donc il y a des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure du doc. Il y a des choses que je savais, mais que des bribes, etc. Donc ça a été l'occasion de retisser un peu, tu vois, des anecdotes comme ça. Et celle-là, ouais, bah moi, c'est vraiment... C'est ce que j'aimais chez les gars, en fait, c'est qu'ils avaient zéro limite. Il y avait pas de. Moi, j'étais déjà un peu. Enfin, ça paraît bizarre, mais j'étais déjà un peu rangé, en fait. À la base, je voulais être prof de sport, et puis il se trouve que je suis devenu journaliste. Enfin, je voyais déjà une vie un peu cool, qui allait se passer de manière très classique, entre guillemets, quoi. Ce qui est très bien aussi, hein, d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis, je regardais les gars, je disais, mais. Ah non, mais en fait, il y a un autre truc qui est possible. Je vois pas encore quoi, je suis pas sûr qu'ils voient vraiment non plus, mais on peut penser un peu différemment et surtout, en fait, on peut s'autoriser à rêver de choses. Au tout début de la série, Aurel, il a même pas de rêve, en fait. C'est pas l'histoire d'un mec, c'est pas Taylor Swift qui, à 5 ans, chante déjà trop bien et dit « Un jour, je serai à la mi-temps du Super Bowl ». C'est pas ça. Aurel, il s'autorise même pas à rêver au début, quoi. Il sait même pas vraiment ce qu'il veut faire. Il sait juste que quand il appuie sur les boutons de sa MPC, la sensation est cool, quoi. Tu vois.
Donc il a écouté ça. Et toi, t'as écouté ça aussi. C'est ça qui est bien dans ce documentaire. C'est que t'as écouté ton kiff. Ton kiff, c'est de prendre une caméra et de filmer, en fait, de faire des documentaires.
Ouais, c'est ça. Et ce qui est filmer marrant, quand je le dis, les gens, ils pètent les plans en général, mais j'aime pas trop tourner en plus. C'est pas vraiment ça mon kiff. C'était vraiment de raconter l'histoire de quelqu'un, tu vois. Genre, c'est vraiment ça. Quand il y a quelqu'un que bah, j'admire pour le coup, j'aime bien, je me dis, ah, j'aimerais bien raconter son histoire. Et avant, j'étais dans le sport à Canal. Et c'est ça que j'essayais de faire. Quand il y avait un sportif que je trouvais ouf, j'essayais de raconter son histoire, quoi. Et donc, filmer, c'était vraiment juste le moyen d'avoir la matière suffisante pour un jour raconter l'histoire, quoi.
Mais c'est-à-dire que toi, vraiment, c'est pas une narration après coup que tu fais dans le documentaire. Toi, au moment où tu commences à les filmer, alors qu'ils sont personne dans un appart claqué, tu te dis déjà, c'est une histoire que j'ai envie de prendre les images parce que c'est une histoire que j'ai envie de raconter. Il y a quelque chose qui se passe, quoi.
Au tout début, ouais. Là, vraiment, quand on voit dans l'appart et tout, tu vois, même on dit le mot documentaire, je sais même pas vraiment ce que c'est. Bah, déjà, j'ai vu.
Je sais quand si tu l'as fait checker la caméra, c'est ça, moi, je me suis dit, putain, mais parce qu'il dit, ouais, pour un documentaire, c'est pas mal.
Ouais, 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 c'est vraiment. Mais je sais même pas. J'ai vu Dig. C'est un documentaire, vous l'avez pas vu?
Non.
C'est vraiment une référence. Faudrait que les gens aillent le voir. C'est vraiment un truc de ouf. C'est, j'ai oublié son nom, malheureusement, mais c'est une réalisatrice.
C'est pas deux groupes?
Si, deux groupes de rock.
Les Baby Shambles. Enfin,
Brian Johnston Massacre et les Dandy Warhols.
Les Dandy Warhols. Les Baby Shambles, c'est le même Dandy Warhols.
D'accord.
C'est ça.
Okay. Et en fait, donc, c'est une réalisatrice qui est une pote à eux, qui les suit pendant 7 ans. Et qui montre donc deux groupes, sans trop spoiler, qui prennent... Il y en a un qui prend la voix plus de l'industrie, et l'autre qui prend la voix de...
Underground.
N'importe quoi, ouais, un peu. Et donc, c'était une influence de ouf. Je sais pas pourquoi, ce documentaire, il m'a marqué. Et je me suis dit, ah, OK, et c'est mal filmé, c'est le bordel, mais elle est avec eux, quoi. Et j'ai oublié son nom, malheureusement. Et je me suis dit, waouh, ce serait ouf de faire ça, ce serait chambé. En plus, ouais, ce que dit mon frère, quoi, t'as juste besoin d'un truc qui filme, quoi. Donc j'ai bossé l'été, j'ai acheté une caméra et je suis parti. Et c'est presque plus après où la motivation, de temps en temps, tu vois, bah, je bossais à Canal, je pouvais pas toujours suivre Aurel et tout. Donc c'est plus après où des fois je remettais en question. Soit je me disais, mais tout le monde s'en fout, t'es ton frère, arrête un peu. Mais au début, ouais, il y avait vraiment l'envie de raconter leur histoire quand même. C'est pour ça que je filmais tout le temps. Ma première technique, c'était de mettre. Un trépied sur... ils avaient une petite étagère et j'appuyais sur rec et je me barrais, quoi. Et quand la cassette était finie, j'en remettais une, quoi. Tu vois,
ce qu'on pourrait imaginer, c'est que tu savais, tu devinais à l'avance qu'il allait prendre cette ampleur, Aurel et ses potes, ils allaient prendre cette ampleur. Mais c'est peut-être pas le cas. Est-ce que tu te disais, même si ça reste de la loose pendant 10 ans, ça pourra quand même être intéressant de montrer cette vie et ces gens, ou dans ta tête, il y a vraiment il va devenir connu.
Ah non, ouais, ça, non, c'est vraiment, il va devenir connu. C'est vraiment
pas
striptease,
c'est pas genre, ah, je vais au pire, si ça marche pas, je vais suivre des gens qui, pour qui ça marche pas, qui retournent à l'hôtel, qui vont bosser.
Non, pour moi ça, non.
Je savais que ça allait marcher.
Ouais, pour moi, dans ma tête, ouais. Mais j'étais complètement ouf de croire ça, en fait. Il y avait mille raisons pour les. Ouais. Bah, peut-être c'est un truc magique, hein. Mais ouais. Au tout début, en tout cas, ouais, c'était vraiment ça. Je me dis, et quand ça aura marché, quand ça aura pété et tout. Mais parce qu'en plus, je me rendais pas compte des radios, des singles, des maisons de disques. Donc en fait, mon frère a été fort, donc un jour, il allait tu vois.
Oui, d'ailleurs, tu le dis. À un moment, je me rends compte qu'il ne suffit pas d'être fort dans le rap. Toi, c'était suffisant de te dire, putain, il est fort dans le rap, donc il va réussir.
Bah ouais. Comme donc il va réussir comme toute personne qui a du talent, quoi, tu vois. Ouais. Moi, j'étais plutôt sport à la base. Si tu étais le meilleur en basket, pour moi, tu devenais pro et talent NBA et tout, quoi. Ouais. Mais, et même ça, c'est pas vrai, en fait. Que
le talent fait pas tout.
Ouais, c'est ça. Il y a la chance. Il y a les blessures, la chance, ton comportement à toi. Est-ce que t'es capable d'encaisser les échecs,
le bon moment,
l'adversité, le bon moment et tout. Ouais, il y a mille trucs, quoi. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure.
Mais surtout qu'en plus, on est dans les années 2000 passées, même.
Ouais.
Et du coup, ça y est, pour moi, à ce moment-là, on rentre dans l'époque où tout le monde s'est rappé. C'est un truc que d'ailleurs Aurel dit souvent, il dit non mais c'est bon, maintenant tout le monde sait rapper. Genre un gars sur deux que tu croises, il a un 16, il sait à peu près rapper.
Un 16, qu'est-ce que c'est? Un 16, c'est ta 16 mesures, c'est-à-dire t'as à peu près 8 à 12 lignes de texte à peu près.
Et du coup, je pense que peut-être qu'à une époque, le seul fait de savoir rapper, c'était suffisamment rare pour que on a besoin de rappeurs et il n'y en a que 3, donc on va les prendre.
Ouais, c'est ça.
Et là après, on arrive vraiment dans la décennie où tout le monde, on va dire énormément de gens savent rapper. Donc, tout le monde ne sera pas rappeur, quoi.
Bah, professionnel. En plus, tu vois, t'avais un... Alors, j'en parle pas dans le doc, mais t'avais un courant alternatif de
Club
rap,
des losers,
etc. qui était alternatif.
Pourquoi alternatif? Parce que pour moi, c'était pas alternatif. C'était du rap, c'était des gars marrants.
Vrai, hein, d'ailleurs, on dit toujours
mais c'était une alternative à ce que t'entendais. C'est-à-dire ce qui passait réellement à fond sur les ondes, etc., ce qui était mis en avant... Un mec comme Fuzati, c'était une alternative à ce qui existait.
Mais
quoi.
Ça n'existait pas, le mot alternatif, dans ma tête. C'était pas du rap alternatif.
Oui, c'est vrai. Nous,
c'était
on
des
le
gens marrants,
nous,
on les écoutait. Fuzati, c'était vraiment genre putain, c'est trop bien, tu vois.
Ouais, mais ce que tu trouvais trop bien, c'est que c'était alternatif. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'était autre chose que ce qu'on te donnait en mainstream.
Ah oui.
Mais c'est vrai que même un groupe comme La Caution, ça passait pas à la radio. Enfin, t'avais quand même une voix du mainstream qui était un certain type de rap, on va dire, quoi. Et donc.
D'ailleurs, même à l'époque, la nuit sur M6, il y avait un truc qui s'appelait l'alternative.
Ah, ouais.
La nuit, il passait des clips qui étaient trop chelous, c'était trop bien.
C'était stylé.
Parce que c'était tout ce qui était alternatif, quoi. Ça passait pas le jour.
J'ai jamais compris pourquoi c'était alternatif, ce truc-là.
Ouais, après, c'est vrai que c'est des
artistes, quoi.
Tu mets sur un... Ouais, grave. Bah, franchement, là, c'est aussi ça qui est cool. C'est comme il y a 20 ans d'image, et 20 ans, une période de 20 ans qu'on traite. Si tu regardes maintenant, tous ces classements-là, ces castes et tout ont tellement explosé en vol, tu vois, c'est ouf. Même le rap, tu peux même plus vraiment dire ça c'est du rap, ça c'est pas du rap, tu vois, c'est ouf. Et rien que ça, genre l'évolution de 2000 à 2005 jusqu'à maintenant, elle est ouf. Et ça, c'est super cool à revoir dans le doc, je pense, mais même à réfléchir et tout. Je pense même des générations en dessous de la nôtre et tout. Il y a tous ces trucs-là. Enfin, je veux dire, moi, au collège, c'était super. Il y avait les Quicksilver, les mecs en Lacoste, les mecs qui
faisaient
de la bécane, les gothiques. Et je pense que maintenant, c'est beaucoup plus, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai pas été traîné dans une récré. Dans
je crois
une
que ça
n'a
pas évolué
récré.
Du
ah ouais,
tout.
Ouais, c'est moi qui me fais une idée.
Je crois que ça n'a pas évolué du tout. Il y a toujours ces...
Zut.
Non, mais les groupes existent toujours, en tout cas. C'est un truc immuable, ça, les groupes.
Ouais.
Les groupes de jeunes, tu vois, les groupes de jeunes qui s'identifient eux-mêmes, qui s'inspirent eux-mêmes, qui s'habillent pareil eux-mêmes, tu vois. Je crois que ça a pas changé.
Je croyais que toutes les barrières avaient volé.
Ah bon?
Zut. Mais je crois que je suis vraiment
naïf.
Moi, je
sais pas du tout.
Nature,
ça fait longtemps que je suis pas allé au lycée, donc aucune idée.
Ouais, moi aussi. Je traîne de temps en temps devant les collèges.
T'as des enfants, ça va arriver.
Ouais, ça va arriver vite.
C'est quoi tes références de documentaire? Donc, Dig.
Dig.
Qu'est-ce que quelqu'un qui aimerait faire? Parce que ton documentaire, c'est un hymne à faire des trucs. Faites des trucs, les gens. Si vous voulez faire des trucs, faites des trucs. Voilà. Et c'est ça qui est très touchant. Et c'est quoi tes documentaires qui t'ont vraiment marqué dans la vie? Tu te dis, putain, faut que je fasse des docus.
D'ailleurs, dans le doc, quand je vais donner les références, je pense qu'on peut retrouver un peu ce que j'ai pioché un peu partout. Il y a Defiant Ones. Donc, c'est l'histoire de Dr. Dre et Jimmy Iovine, qui était sur Netflix, qui était ouf, qui était en 5 parties, si je dis pas de bêtises, ou 4, qui est sorti il y a 2 ans ou 3 ans, peut-être même avant.
Jimmy Iovine et son téléphone.
Ouais,
je vais qu'il passe des heures au
donc,
téléphone.
Et donc, ça, je l'ai maté, 15 fois, quoi. Des fois, je regardais juste des petits bouts. Comment ils ont fait ça? D'accord. Ah ouais. Et c'était ouf. C'était, en tout cas, sur le montage. Après, c'est très ricain et tout, tu vois. Mais il y a ce documentaire-là.
C'est l'histoire de Dr. Dre et son acolyte de toujours, en fait, son producteur, son ami, son patron de label, son gars qui va... En fait, le gars va fabriquer des gens. Il va fabriquer des... C'est une machine à fabriquer des hits.
Genre le mec qui faisait des émissions, c'est lui qui dit à un chef, mais non, mais tu vas à la télé et tout, et tes restaurants, tu vas faire des chaînes et tout.
Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un mec qui c'est une machine à hit depuis 30 ans, il connaît tout le monde et il lance Beats et ils deviennent multimilliardaires en vendant Beats à un moment donné. Donc, c'est toute l'évolution de on commence rien à Kempton jusqu'à la vente à Apple, quoi. Donc, c'est assez fou. Donc, ça, c'est une référence. Ensuite.
Grosse striptease. Ref aussi. Striptease, ouais, parce que non, mais c'est vrai.
Non, mais t'as des plans assez striptease
c'est
quand fun. Même.
Ouais, c'est vrai.
T'as des plans méga striptease aussi, tu sais.
Ouais. Ouais, striptease. Bah, y a des striptease
en plein dedans,
qui sont
des fois.
Ouf, quoi. La soucoupe et le perroquet. Ah, Police et polisson. Police et polisson, il est ouf.
Docteur Lulu.
Docteur Lulu.
Tu connais Docteur Lulu? C'est un hit, Docteur Lulu.
Et Police et polisson, vous le connaissez?
Bon, je connais peut-être pas le titre, mais je pense que
c'est quelqu'un où il y a un flic qui s'occupe de lui. Et en fait, c'est vraiment un petit jeune.
Police et polisson.
Ouais, et polisson. Et genre, ce petit jeune à scooter qui fume des pétards, tu vois. Et vraiment, tous les adultes autour de lui sont vraiment... C'est eux, la mauvaise fréquentation, tu vois ce que je veux dire. Il est ouf. Il y a ça, il y a...
Sur le nazisme aussi, là, tu sais, il y a le gars d'extrême droite qui suivent, un mec qui est raciste, vraiment antisémite.
Ah, j'ai pas vu celui-là.
Sur le nazisme, enfin, il y a des striptease, vraiment, si... Bouffez ça sur YouTube, c'est... Achetez, soutenez-les, parce que c'est formidable ce qu'ils font.
Il y a, qu'est-ce qu'il y a, Looking for Sugar Man,
ouais.
Qui était ouf, sur un chanteur de folk qui est une méga star en Afrique du Sud. Mais personne ne sait ce qu'il est devenu, méga star dans les années 70, celui-là était ouf, il m'a marqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont je voulais parler comme docu, qui m'a grave influencé. Tout sur Netflix, tous les movies that made us, toys that made us et tout. C'est les coulisses de la création de films. Donc là, ils en ont ressorti récemment. Donc il y a les Retours vers le futur, Jurassic Park et tout. C'est ouf, c'est trop bien.
Rien en français.
Et en français,
t'as le droit, hein, c'est pour savoir s'il y a une inspiration aussi.
Est-ce que les 60 jours, 60 nuits
de Joey Starr et Francine, ouais, grave.
Ces trucs-là, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ça fait partie, c'est carrément.
Ça fait partie dans ton inconscient. Fond, voilà.
J'ai trouvé mon putain de si bémol. ça c'était grave. Ça fait longtemps que je sais pas. Enfin, je les ai jamais revus, je crois, en fait. Mais c'était ouf, le format était fou à l'époque.
Ouais.
Et voilà. Attends,
c'est top. Je vais en retrouver d'autres. Non, mais c'est top si les gens aiment les documentaires. Hein, c'est vraiment des documentaires phares qu'il faut commencer par là. Si
grave.
Tu...
Mais Dig, c'est la plus. Bah, et puis après, les docs de sport. Ouh, si, à ne pas oublier. O.J. Simpson, Made in America. Pas la série, le doc, qui est une série doc. C'est là où c'est un peu piège. Et donc, c'est ESPN qui avait fait ça. Ça avait eu l'Oscar du meilleur documentaire en 2016, je crois.
D'accord.
C'est en 5 ou 6 parties. Et là, c'est une fresque. Je crois que c'est le meilleur truc que j'ai jamais vu, quoi. Ça t'explique les États-Unis à travers le procès d'O.J. Simpson. En fait, ils arrivent en te racontant le procès d'O.J. Simpson. Il y a des couches et des couches et des couches de compréhension et tout. C'est ouf.
The Last Dance?
The Last Dance,
documentaire
ouais,
sportif.
Grave. À la base, quand j'ai monté le doc, je voulais faire des allers-retours passé-présent. Un peu plus que ce que j'ai fait là. Et puis, il y a The Last Dance qui est sorti.
Documentaire sur Michael Jordan.
Sur Michael Jordan.
Et les Bulls et toute la team, coach,
ouf.
Scottie Pippen.
On se dégustait ça avec mon frère, justement, tous les lundis pendant le confinement.
C'était fou, hein.
On se faisait un petit cognac. À Calva, même.
À Calva, oui, naturellement.
Et on regardait les épisodes de The Last Dance on sirotait les épisodes comme on sirotait nos Calva. Mais j'étais super déçu de... On peut débriefer les épisodes et tout?
Bien sûr, de toute façon, maintenant, c'est... Plus...
Okay. Non, de la fin, en fait, j'aurais bien aimé en savoir plus sur Michael Jordan. Et à la fin, il gagne juste un match et ça m'énervait. Vous aviez peut-être la même question.
Me connaissant, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas mis dans le documentaire?
Ouais, est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas mis... Est-ce que, du coup, ça a créé possiblement une discussion entre Aurélie et toi? J'imagine qu'il y avait un peu le regard sur le documentaire.
Ouais. Non, mais...
Je vais demander ça.
Franchement, traiter ensemble, ce n'est pas possible.
Tu vois, parce qu'en gros, peut-être que Jordan ne voulait pas qu'il y ait certaines choses. En fait, toi, en tant que spectateur, tu as été déçu, mais que ça se trouve, c'est Jordan qui a dit non, tu ne montes pas ça,
ah
tu
ne
montes pas ça.
Parce que Jordan, à mon avis, c'était
un argument? Est-ce que c'était une réflexion avec ton... Est-ce que ton frère, déjà, a supervisé le truc.
Non, il l'a vu. En fait, c'est trop marrant. Aurel n'a pas encore vu les épisodes, genre bien étalonnés, mixés.
J'imagine que tu as des doses. Enfin, le côté ne montre jamais ça. J'imagine qu'il y a des trucs qu'il ne faut vraiment pas montrer.
Ouais, ouais.
Parce que toi, tu as été tenté parfois de mettre blagues, un truc en fait, et de négocier avec lui en disant, mec, ça c'est important de le montrer.
Non, franchement, non. Déjà, moi, je suis un peu timide de base. Donc, je suis pas le mec qui va aller chercher le scoop ou machin. Mais vous connaissez Aurel.
Je parle pas de scoop. Je peux me permettre, Aurel, dans ses chansons, déjà, il est méga honnête et transgressif.
Oui, mais il est en contrôle. Il décide de le dire ou de pas le dire. C'est lui qui décide. Tu vois?
Oui, mais c'est quand même.
Parce que là, il y a quelqu'un d'autre qui t'a filmé toute ta vie.
Ouais.
Tout d'un coup, il met quelque chose. C'est possible que tu dises, ah non, mec, là, ça me met trop mal à l'aise, le montre pas. Mais c'est horrible, ou ça, c'est honteux, ou j'aime pas, ou tu vois. Ça, en plus, ça peut être des trucs complètement anecdotiques.
Oui, ce serait plus ça, en fait. Ce serait plus un truc.
Pas forcément le pire truc. Ça se trouve, le pire truc, il l'a mis, et alors il a dit, ouais, cool, c'est le pire truc, c'est cool.
Ouais, ouais.
Tu vois, mais qu'il y a un truc, à un moment, tu dis, mais j'en ai besoin pour ma narration. J'ai besoin, c'est important de montrer ça de toi. Est-ce que lui, il y a eu des moments où.
Non, franchement, non. Justement, parce que le premier choix qui se fait, c'est sur la narration et quelle est l'histoire que tu racontes. Et en général, je sais pas, ouais, y a bien une vanne pourrie, un peu border que j'ai pas mis. Tu vois ce que je veux dire?
Oui,
dans
voilà.
Toute sa life, mais qui est pas intéressante. De toute façon, enfin, c'est là pour le coup, on n'est plus dans.
C'est de l'anecdote.
Oui, c'est de l'anecdote naze. Enfin, vraiment. Et non, il a même pas vu. Ouais, donc il a vu deux fois les épisodes. Mais vraiment en tant que spectateur quoi. Et en plus pour lui l'expérience était tellement ouf, je pense, de se voir que je pense qu'il a même pas trop analysé les trucs dans le détail quoi, tu vois. Et non, il y a pas de.
Il y a pas une séquence, t'aurais aimé la mettre, tu dis, pas par rapport même pas au Aurel et Pepe Accord, mais ça rentrait pas dans le rythme ou quoi que ce soit.
Il y avait une belle séquence avec ma grand-mère qui était, tu vois, on était chez elle, près d'un piano comme ça, il y a les photos de jeunesse et puis elle parle de nous, elle a les larmes aux yeux et tout, mais c'était trop.
Mamie Janine.
Mamie Madeleine. L'autre mamie. Et je sais, ça faisait trop, j'essaie de tirer l'alarme aux gens, en fait. C'est trop bizarre. C'était D'accord. trop perso, en fait.
Ouais, je vois ce
en
que
fait, c'était
dire.
Ça, la limite. C'était quand on tombe dans de la vie privée, c'est plus intéressant. Et en fait, là, vraiment, elle s'adressait à moi en me disant qu'elle était contente de nous avoir eus et tout. Mais ça n'avait rien à voir avec le documentaire. Donc, je ne l'ai pas mise, alors qu'elle était super belle et j'étais super content qu'elle me dise ça. Mais c'était pas intéressant, entre guillemets, pour les gens. Enfin, je sais pas comment dire. J'avais envie de raconter une belle histoire et. Si je faisais un film égoïste, entre guillemets, ce serait sympa pour personne, en fait, quoi. Donc, c'était un peu ça ma ligne directrice. Mais non, les gars, ils sont assez fous pour m'avoir laissé filmer, monter, en les voyant vite fait, quoi. Mais c'était pas du tout. D'ailleurs, à la base, je pensais qu'Aurel, il serait plus là en montage, machin et tout, quoi, tu vois.
Est-ce que dans le docu, tu le montres comme quelqu'un qui est quand même très en contrôle, avec ouais. Scred, donc, ils ont un sens du contrôle de l'image et de bien tenir le truc parce qu'ils veulent. Et donc c'est intéressant que dans le docu il soit comme ça. Est-ce que c'est parce que tu penses que c'est parce que t'es leur frère que t'es le frère d'Aurel que du coup ils ont laissé passer le truc en disant on fait confiance à Clem? Parce qu'en fait c'est étonnant, dans le docu on voit des gars qui sont quand même très vigilants, notamment Scred. Et puis après, tu te dis, bah, le docu, non, ils ne l'ont même pas vu. Ils vont le découvrir sur Amazon.
Bah, en fait, c'est pas mal. Ouais, c'est trop bizarre.
Ils n'ont pas l'abonnement.
Il y a les keufs qui arrivent, vous avez volé un ordinateur à l'IUT. Allez, c'est parti.
Je pense qu'il y a...
Ils annulent la tournée. Ah bah, c'est dommage.
Je pense que c'est une question de confiance, en fait. Et ça qui est ouf, c'est comme ça qu'ils travaillent, les gars, quand même. Qu'ils travaillent, c'est pas très joli le mot travailler, mais qui fonctionnent ou qui vivent. Je pense que sur la tournée, c'est pareil avec Jean l'ingé son, Nicolas l'ingé son. C'est en fait il laisse les gens faire leur art ou leur, tu vois, une fois que en fait ils ont confiance, qu'ils voient là où tu veux aller et tout. Derrière, ouais, non, ils sont pas très justement, en fait, je pense que les gars, ils aimeraient bien se faciliter la vie et qui est tu vois, s'occuper de moins de trucs, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Et du coup et non, on avait une peur, c'était que en fait, ce soit pas intéressant, mon point de vue, mon personnage, tu vois, que les gens regardent et se disent, ouais, mais je m'en ouf de toi.
Ah non, pas du tout.
J'étais là pour un doc sur Aurel San.
Non, mais ce que t'incarnes justement, le regard extérieur, tu deviens un vaisseau.
Ouais, on
se dit pas c'est un docu
ça.
Sur le frère d'Aurel. On se dit c'est un docu du point de vue du frère d'Aurel. Donc on me met à une position. Moi, je trouve c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une plus-value de ouf. Parce que t'as vraiment la sensation d'être dans on est dans tes yeux, en fait. Parce que même la narration, la manière dont t'en parles, le fait que tu utilises la première personne, que tu dises je découvre à ce moment-là que, je vois que, on est... C'est, tu vois, moi je trouve ça, justement, je trouve que c'est un truc très original dans un documentaire.
Oui,
je crois que c'est la première fois que je vois ça même.
Bah oui, c'est vrai. Et t'es à même à comprendre Aurel, et t'es à même comprendre... Tu comprends, en fait... Il y a un truc très touchant dans le documentaire, c'est que tu vois à quel point Aurel met de la force dans tous ses travaux pour entretenir l'amitié qu'il a, pour entretenir les liens d'amitié qu'il a avec son entourage, ses amis. Et en fait, il aime tellement ses amis, il aime tellement ses potes, qu'il crée des œuvres pour continuer l'aventure. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, quand il dit, ouais, il a écrit un film dans la nuit, il vient de faire un concert et hop, il écrit. Bah là, il a sa vision de tenir. Peut-être que je me trompe, hein, mais tu sens qu'il aime. Enfin, il y a tellement de l'amour que il crée cette réalité. Il la crée, il la visualise, il la propulse sur du papier. Ça crée des projets. Du coup, ses potes font l'aventure des casseurs flotteurs pendant 4 ans avec Ablai, Gringe, Scred. Ils repartent, ils font des trucs, des tournées, des machins et tout. Ils refont des albums, un film. On a fait bloquer. Il y a plein de choses qui se collent comme ça au truc. Et je trouve que ça n'est. Je pense que c'est de l'amour. Je pense vraiment que c'est que de l'amour. C'est de la, le gars aime tellement ça, ça a dû le faire tellement kiffer. Peut-être qu'il avait un malaise dans son adolescence, peut-être qu'il avait un malaise dans sa jeunesse d'adulte, tu vois. Tu sens qu'il est, dans ses textes, tu le sens, qu'il n'est pas à sa place, qu'il n'est pas successful, tu vois. Et que c'est le moment où il est avec ses potes, c'est le moment où il rigole. D'ailleurs, tu le vois rigoler, éclater de rire. Vraiment, quand il est, ah, il tape des barres, c'est quand il est en train de faire des conneries avec ses potes, quoi. Il aime tellement ça qu'il veut garder le moment jusqu'au maximum. Et c'est vraiment lui qui tient les amitiés, quoi.
Et ben, ça, c'est le genre d'analyse que moi, j'avais pas du tout et que j'ai toujours pas. Tu vois ce que je veux dire?
Bah merde, je dis de la merde, ça se trouve.
Ah, non, grave pas, non, c'est ton analyse.
L'éditeur de philo.
Non, grave pas. Non, mais c'est le genre de truc où j'avais besoin de gens extérieurs, donc Christophe notamment, pour me dire, ou les gars, Hugo et Maël, les deux monteurs, pour me dire, mais attends, tu vois ça, en fait, fallait que moi, je leur explique les codes de voilà pourquoi cette séquence là elle est importante, pourquoi est-ce que quand mon frère est dort dans un canapé en 2008 c'est important parce que là en fait il est en train d'essayer de trouver un morceau qu'il n'arrive pas à trouver, il essaie de passer un cap dans sa carrière aussi, ça c'était important, qui fait quoi, où, comment, pourquoi est-ce qu'on est là. Et après c'est eux souvent qui me disaient mais attends ça c'est fou en fait. Ça c'est intéressant, enfin c'est vraiment cool. Donc c'est cool de tu vois d'avoir les analyses des gens et puis je suis content parce que Il y a plein de gens qui sont contents après avoir vu le doc et puis qui ont leurs propres analyses, qui viennent poser des leurs yeux, leurs regards et tout là, sur le doc. Et ça, c'est trop cool.
Ils ont créé un vrai, vrai truc.
C'est trop cool.
Les gens te connaissent maintenant pour ce documentaire sur ton frère, qui est disponible sur Amazon Prime. Mais il y a un truc qui, pour moi, est la vidéo la plus marrante de l'année 2019. Qui est fucking Fred. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, là ? Avec Jonathan Cohen et Aurel en tournée.
Alors ?
Putain.
C'est pas bon le délire ?
Fucking Fred.
Du fucking Fred, gars ?
Bonjour, Aurel-san. Bonjour, c'est fucking Fred.
Enchanté.
C'est galé ou pas ?
C'est quoi ce truc ? C'est quoi cette. Mais c'est d'une. Enfin, je n'ai jamais autant rigolé.
Mais c'est vrai que tu vas m'envoyer un message en me disant mais c'est trop marrant. Alors que nous, on savait pas trop ce qu'on avait fait, quoi. Et fucking Fred, c'était trop marrant. En fait, c'est pas moi qui filme. J'ai oublié son nom. Je suis désolé. Je vais pas le retrouver. Sinon, je demanderai.
D'accord.
Vous avez toujours le petit système.
Bien sûr, c'est lui
qui filme. Voilà. Et moi, j'étais pas là ce jour-là. Et il y avait tout Stade Rush. Donc, Aurel faisait des petites vidéos où il invitait des gens. Il avait invité Flaubert, notamment sur sa tournée, avec qui on a écrit Bloqué, qui a fait une petite vidéo concept.
En fait, Aurel et moi, on est des cerveaux qui sont sans cesse en ébullition. Et Aurel savait pas que je composais de mon côté. Voilà, je fais un peu de garage band, des trucs. Des trucs sympas, plutôt cool, mais bon, après, c'est pas à moi de. Voilà.
Et puis, on avait fait un truc avec Thomas Gijol.
Je suis venu un peu rock, quoi, tu vois, donc du coup, je prends qu'un slip. Et là, il y a mon slip qui sèche. Tu vois, sur le toastmat de Aurel. Donc, si par exemple, là, je l'ai mal essoré, court-circuit, et ben, il n'y a pas de transistor.
Et pas que des gens de l'humour, mais aussi, voilà, des gens qui ont fait des vidéos un peu concept et tout. Il y avait Adrien et Ousmane aussi qui font des clips pour.
Ils sont très bons, très bons.
Ouais, et qui avaient fait une vidéo de.
Adéus.
Ouais. Où Aurel envoie un.
Producteurs de clips sont formidables.
Ouais, ils sont super bons.
Rédiger les réponses.
Est-ce que vous êtes content d'être ici en Belgique ?
C'est un truc qui est toujours ouf. Mais ça, c'est marrant parce que tous les Français se le disent à chaque fois que tu t'es.
Et Aurel envoie un robot à sa place pour faire le concert. Voilà. Donc il avait fait plein de petites vidéos comme ça. Et il invite Jonathan et ils font pendant deux jours n'importe quoi. Et Aurel revient avec les rushs et il me dit bon, je crois qu'il y a des trucs qui sont bien. Faut qu'on arrive à faire une histoire marrante. Et du coup, c'est la naissance de Fucking Fred. Je sais pas si tu veux revenir sur un truc précis ou.
C'est filmé par Ilia Chemetov.
Ah voilà, Ilia. Donc c'est filmé par les rushs. Le tournage est de Ilia Chemetov, qui a suivi Jonathan. Et moi j'étais pas là, donc j'ai juste découvert les rushs. Et après fallait qu'on raconte
une structure. T'as mis une structure.
Ouais, une structure. Parce que comme je vous le disais, donc du coup moi c'est pas tourner que ma passion, c'est monter. J'adore monter et écrire maintenant. Que j'ai découvert avec vous. Et donc, fallait qu'on arrive à raconter une histoire avec ça.
Et vous avez après fait des... C'est un documentaire, donc c'est Jonathan qui doit trouver son numéro pour le concert d'Aurel. Aurel l'invite pour faire venir un feat sur scène et tout, et il doit trouver son numéro. Qui dit passe par la magie, propose des trucs de fou. À chaque fois, c'est très, très gorlif. C'est Jojo, hein, on connaît. Hein. Mais c'est fou. Et après, vous avez carrément... Il y a une sorte de face caméra, de confessionnal face caméra. Vous allez faire de mockumentaire, en fait, un peu comme à la The Office, justement. Et ça devient, mais juste, enfin, je pleure de rire à la fin. Il y a une révélation. Genre, ah
moi, je crois que c'est le génie de Jonathan aussi. Hein, il est trop marrant. Mais moi, et il y a, bah, alors là, pour le coup, des séquences que j'ai coupées où j'étais dégoûté de les couper. Il y en a mille, quoi, tu vois. Des freestyles de Jonathan, là, on en a mis quelques-uns. Mais, des impros trop marrantes et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un autre truc.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu te retrouves devant les rushs et toi, ce que t'aimes, c'est raconter l'histoire
ouais,
à partir des rushs que t'as.
Exactement. Et là, j'ai appliqué la technique pour les gens qui veulent écrire d'un bouquin de scénario qui s'appelle Save the Cat.
C'est un bon bouquin, contrairement ouais, aux autres, je trouve.
Bah, il est vraiment.
C'est que théorique. Ouais. Il y a plein d'astuces, plein de vrais
bah,
trucs
exactement,
concrets. Ouais.
Il est très, très technique. Et en fait, si les gens veulent se lancer, le mieux, c'est d'avoir un projet justement comme ça. Genre, j'ai plein de rushs, wow, je ne sais pas quoi raconter comme histoire. Et du coup, tu appliques les conseils donc, de Blake Snyder, qui a écrit Save the Cat. Et,
d'ailleurs, le livre a un nom pas ouf en français.
Ah ouais,
il
c'est
a un
vrai?
Autre nom, ouais.
Okay.
Sauver le chat!
Sauver le
non,
chat.
Non, mais c'est un truc genre, comment écrire un scénario, ça n'a plus rien à voir avec Save the Cat.
Oh, ouais, ah ouais, d'accord, oui, c'est vrai.
Parce que Save the Cat, parce que donc son premier conseil, c'est que le personnage principal, pour le rendre sympa, il faut qu'il sauve un chat dans les premières minutes. Donc sauver un chat qui peut être métaphorique ou vraiment sauver quelque chose.
Qu'on l'aime, qu'on lui donne de l'empathie.
Ouais, exactement. Et donc c'est le truc qui m'a permis de vraiment me mettre à l'écriture de scénario et à comprendre qu'en fait c'est pas il y a une technique, il y a des choses à faire pour écrire un scénario. Et avec Aurel, on s'est pris la tête pour essayer de, alors ça pour rien hein, parce que c'est une vidéo YouTube qui n'a
t'as pas un problème avec les vidéos YouTube
qui n'a, non,
il y a un problème à faire une vidéo YouTube dire,
on s'est j'ai passé je crois deux mois dessus ou un truc comme ça quoi ça enfin enfin non, pas pour rien, puisque
c'est
on a fait rigoler Kian. Mais
c'est jamais,
voilà, c'est jamais pour rien.
C'est jamais pour rien.
On a fait rigoler Kian.
Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, bah, c'est un chef-d'œuvre.
Ah, bah, c'est
bravo. C'est un chef-d'œuvre comique. C'est-à-dire, t'as un moyen métrage de 30 minutes, pardon. Mais voilà.
Je regarderai alors.
Ah ouais.
T'as jamais vu?
Non. Ah, c'est pour ça que je suis très silencieux depuis tout à l'heure. Je suis en galère, là.
Les cocktails. Je te jure, les. J'ai fait.
Je crois que tu m'as menti. Il me semble que tu m'as montré des bouts de temps en temps, parce qu'il se tapait des barres, il disait « Regarde, regarde !» Je sais plus, il y avait Jonathan qui disait
« Tu fais le magicien, là !»
Tu
connais la théorie des cordes, mec, ça... Oh là là, on va entrecouper l'extrait à chaque fois dans la vidéo, si tu me permets.
Ah bah, bien sûr, ouais.
Avec plaisir.
Je pense qu'un objet peut effectivement être un endroit, ici par exemple, et être un autre au même moment. Ce qu'on appelle la théorie des cordes, ok? Et ce qui est marrant, c'est que dans les voyages temporels, le but, c'est de faire voyager cet objet-là à cet endroit-là. Là, il est dans ma main, et hop, il va passer dans cette main, et je le fais disparaître.
D'accord.
Il arrive là, et il a voyagé. Dans le...
Par contre, pour sur scène, ce serait bien de faire un truc un peu plus fat, parce que les trucs de paquet club, et
ouais,
tout, il y a genre 20 000 personnes.
C'est ce qu'on appelle du close-up, tu vois, c'est en face, ces trucs.
Tu penses que tu peux faire disparaître Manu le batteur, par exemple?
Non, non. Non, c'est vraiment, en fait, c'est les briquets, les clubs.
Mais non, bah aussi, enfin, c'est trop cool d'avoir des mecs comme Jonathan ou Thomas, Njijol, tu vois, parce que bah la matière, t'en as ce que tu veux, puis après t'as juste à prendre les bons moments et tout ça, c'est trop cool. Quoi.
Les bons
les
moments.
Les bons moments. C'est où le placement de produit?
Bonjour. disponible sur une bonne boutique.
Bon moment.
Et ça, c'est trop cool. Et ouais, Fucking Fred, c'est trop marrant. C'est trop marrant. En plus, il y a l'ambiance de tournée, c'est ça qui est cool. C'est la tournée. À un moment, Jonathan... je l'ai coupé d'ailleurs. Mais il dit... Putain, mais le tourbus, c'est incroyable, quoi. Je peux dire à tout le monde, je suis injoignable. Alors que je suis complètement joignable. Mais il y a cette idée, quand t'es en tournée, t'es ailleurs, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, tu peux poser ton téléphone. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Et j'aime bien cette vidéo-là, parce qu'elle te rappelle un petit peu ça.
Si je devais remettre des prix de vidéos, je mettrais ça, c'est sûr, direct.
Non, merci.
Ah non, c'est clair. Mais ça peut être marrant d'être faire une cérémonie des dernières années.
Plus des trucs vraiment à un Oscar. C'est un prix, c'est toi.
Tu te mets bien comme ça sur un socle noir. C'était bon.
J'avoue. Bah ouais, grave.
C'est toi, en fait, sur l'Oscar.
Ouais, c'est clair. Et t'as fait aussi un autre programme qui est Chamé. Et j'espère que les gens vont pouvoir aller le découvrir. Je crois que maintenant, c'est sur YouTube. Tu l'as mis maintenant totalement en intégrale. C'est Invisible.
Ah ouais, c'est à l'époque où j'étais à Canal+.
Ouais.
Je crois qu'ils ont mis... Alors, je sais pas si les émissions en entier ou juste les sujets au ralenti. En fait, ouais, c'était à Canal. J'ai dû proposer cette émission en 2017. J'étais fan d'un programme... En fait, je suis toujours fan de trucs et je veux le refaire après, en fait. Mais c'est
ça s'appelle la création artistique.
Ouais. et moi, j'étais fan d'un programme sur ESPN, une chaîne américaine de sport qui s'appelait Sport Science, où ils expliquaient à travers la science des actions, des gestes de sport. Et je me suis dit, ah, ce serait cool de le faire, mais bon, je ne vais pas refaire exactement la même chose, ce serait un peu con. Et du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Et puis, il y a cette caméra super ralentie que j'ai découvert, je ne sais plus où, qui est complètement folle. La Fantôme, exactement. Qui est une caméra de technique militaire à la base pour analyser la balistique.
Mm-hmm.
Et je me dis, waouh, ce serait ouf de filmer ces gestes au super ralenti. Je suis sûr qu'on découvrirait des trucs de ouf. Et donc, on découvrirait des choses invisibles. Et donc, le concept est parti de là. Et donc, à la base, c'était juste une pastille de 3 minutes où donc, c'était ce geste au ralenti qu'on décortiquait dans une émission. Et après, c'est devenu... une émission à part entière où tous les mois on décortiquait un geste de sport dans une émission de 30 minutes.
D'accord.
C'était ouf. Et on a fait l'uppercut à la boxe. Qu'est-ce qu'on avait fait? On a fait le tir à 3 points au basket. On a fait la passe au rugby. On a fait.
Il y a le curling, non?
On n'a pas fait le curling. Non, on a fait le hockey sur glace. Ouais, on a fait le slap shot au hockey sur glace où on découvrait, par exemple, que donc au hockey sur glace, pour tirer fort, la cross tap la glace avant de taper le palais. Comme ça, en fait, la crosse se tord et avec la flexion et le retour, en fait, ça va encore plus vite que si on tapait. Voilà.
Il y a un tout petit saut à la perche dans le...
Exactement, il y a un peu de saut à la perche dans le hockey sur glace.
Je sais que t'adores organiser des jeux en permanence. T'es un grave fan, tu fais des concours dans les, soirées, tu fais des...
Mais ça, c'est fou. C'est Aurel qui me parlait de ça, moi. Tu sais qu'un jour, je suis arrivé chez Aurel et il y avait un grand tableau... avec des noms, des scores et tout. Je dis, c'est quoi? Il fait, ah, ça, c'est Clem, il a organisé un concours de dessert. Je crois que c'était un concours de dessert.
On a fait un concours concours de lasagne et de dessert.
Putain, le mec,
édition 2013.
Il crée des Olympiades, quoi. Vraiment, il est là, il fait, OK, attends, on voulait savoir qui a fait le meilleur dessert, vraiment. Et t'as cette réputation, en tout cas, que j'ai beaucoup entendu, ouais, mais si on part chez Clem, après, il y a des Olympiades. Tu fais des Olympiades.
Ouais, c'est tous les 3-4 ans.
Il y a
une édition qui arrive bientôt là, mais je peux pas dévoiler encore la date.
Pas encore dévoiler, mais où est-ce qu'il y aura un site internet, sur Instagram peut-être qui
dévoilera? Non, parce que je veux vraiment inviter que des potes, parce que il y a des teams, il y a des revanches à prendre, il y a des histoires croisées.
Les dernières Olympiades, il y a 3-4 ans.
Les dernières, donc c'est un nom déjà que j'ai pas encore déposé, mais je vais le déposer. Ça s'appelle le Grand Frisson.
parce que je crois que Kian il savait pas trop ça, c'est moi
mais
qui t'ai dit.
C'est toi qui c'est Navo, il m'a dit mais faut que tu parles des jeux, il est ouf.
C'est sa vie.
C'est un ouf.
Et Navo, je l'avais invité une fois, il m'a dit c'est pas pour moi. C'est très gentil hein. C'est
non,
gentil,
en fait j'ai dit bon, franchement moi en plus perdre, je m'en fous, ouais. Être avec des gens ça me fait plaisir, mais des gens que je connais pas, c'était plus parce que c'était que des gens que je connais pas. Si un jour tu fais un Grand Frisson spécial avec eux, des Kian, des Jonathan, des machins.
Avec les bloqués.
Je viens avec plaisir. Okay. Pour pas être choisi dans les teams.
Et bah, je vais faire ça.
Je serai le dernier, je crois. Comme dans les.
Je vais faire. Ouais. Et du coup, donc c'est. J'y vais, je raconte vraiment tout. Ou...
Mais oui, bah, bah, on veut connaître le grand.
Le grand frisson, ça a commencé.
Parce qu'en plus, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est ce côté jusqu'au boutiste et en fait, d'être passionné. Pour moi, on comprend mieux le docu, pour revenir sur le docu, qui est que t'as pas prévu que ça devienne un jeu télé. Mais tu te mets dedans avec une force. Tu vois, quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il le fait.
Il y croit, Damien Maric.
Ouais, voilà.
D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je raconte une anecdote à propos de vous. Après.
Ok.
C'est cette histoire de chance.
Ok.
Ben, je la raconte maintenant.
Non, vas-y, vas-y.
Non, le grand frisson.
Ça fait un suspense, comme ça, les gens.
Ok, bon, alors attends.
Les gens veulent connaître le grand frisson maintenant. On attend.
On attend pour le grand frisson.
Qu'est-ce que tu veux nous dire à propos de la chance?
Alors, la chance. On écrivait bloqué, on était dans une voiture, on allait je sais plus où, et vous alliez à une conférence que vous aviez écrite pour Canal, ou c'était une conférence que vous faisiez?
C'est au Palais de Tokyo, non?
Ça devait être au Palais de Tokyo.
Ouais, au Palais de Tokyo, exactement. Qui était un truc unique, ou vous l'avez après
on l'avait fait deux,
fait
trois fois dans le monde.
On l'avait fait pour Montréal.
Dans le monde.
Parce qu'on l'a fait à Montréal.
On l'a fait à Montréal et à Paris. Attends, c'est le monde. Je suis désolé.
C'est vrai que c'est le monde.
C'est international.
Et vous expliquiez.
Ah, t'étais venu à cette
Non, je l'ai eu en
c'est ça qui en audio.
Non, je l'ai eu dans le taxi.
Ah, on l'a répété dans le taxi.
Nous on vous déposait avec Aurèle et vous étiez dans le taxi et en fait, vous avez fait une sorte d'italienne au théâtre. Vous avez dit, donc là, tu te rappelles, je te dis on a réussi parce qu'en fait, on a rencontré du monde et toi tu me dis OK. Et donc en fait, j'ai eu votre conférence en tu vois, tu sais quand t'écoutes les messages vocaux sur WhatsApp là en x2. J'ai eu comme ça. Et ce que j'ai chopé dedans, c'est que il y avait une partie sur la chance. Et vous disiez, dans la vie, et pour réussir dans une carrière artistique, vous dites, quand je vous paraphrase mal, il faut de la chance. Par exemple, le monteur qui montait sur Bloqué, il a eu énormément de chance parce qu'à la base...
Sur Bref,
il a eu énormément de chance parce qu'à la base, en fait, il n'était pas connu, je ne sais pas quand, on ne le connaissait pas.
Et... Je le croise un jour... On sympathise, mais c'est la chance, on se croise, on n'est pas...
Exactement. Sauf qu'en fait, il se trouve que lui, il faisait des montages de vidéos de mariage.
Ouais.
C'est ça. Et sauf que la vidéo de mariage, elle déchirait tellement pour rien, parce que c'était juste pour faire plaisir à son pote pour un mariage, ou alors, je sais pas si c'était professionnellement. Mais du coup, le mot était passé, qu'il montait des vidéos de mariage de ouf. Et donc, t'avais eu la chance de le rencontrer, mais lui s'était donné à fond dans ses vidéos de mariage pour qu'un jour, quelqu'un dise « Hey, c'est un monteur de ouf ».
C'est vrai.
C'est à peu près ça.
C'est la partie qu'on appelait respecte la chance.
Respecte la chance, ouais.
Okay.
La chance respecte ceux qui la respectent, un truc comme ça. C'est-à-dire, tu sais pas quand est-ce que tu auras l'opportunité de qu'on voit ce que tu fais. Donc, fais toujours le truc au max au cas où tu aurais de la chance.
Non, il y a trois étapes avec la chance. C'est avoir de la chance. Bon, ça, tu peux maîtriser pas. Mais quand tu as de la chance, tu peux savoir la reconnaître. Ça, c'est un truc que tu peux savoir apprendre à le faire.
Détecter la chance.
Détecter que c'est une chance. Et la troisième, c'est garder la chance. Et garder la chance, c'est continuer à travailler plus. Et je sais plus qui disait, c'était ma prof de tête qui me disait, si un jour ça marche pour vous, travaillez 1000 fois plus. Mm. Parce que c'est maintenant qu'il va falloir montrer et garder la chance, justement.
Mm. Et ça m'avait super influencé. Je me suis dit, mais en fait, il y a de la chance, évidemment. Moi, je suis le petit frère d'Orelsan. C'est une chance de ouf. Mais il y a aussi tout ce que tu fais autour qui t'amène des fois à des échecs. Et puis, en fait, ces échecs-là, tu récupères un petit bout de ce que tu as fait et puis tu le remets ailleurs et tout. Et donc, en tout cas, la leçon de ça, c'était donne-toi à 1000% tout le temps. Comme ça, si un jour tu rencontres quelqu'un, au moins tu pourras lui montrer ce que tu as fait ou tu t'es donné à 1000%. Voilà. Et c'est pour ça que... J'organise des Olympiades.
Dans les Olympiades, je me donne la chance.
Non, mais parce qu'en fait, j'ai dit, c'est typique de ce qui se passe dans le documentaire. Parce qu'en fait, bon, ça n'arrivera peut-être jamais. Et c'est même plutôt sûr que ça n'arrivera jamais. Mais tout d'un coup, pour une raison X ou Y, t'es pas au courant. Mais le pote de machin, en fait, il est président du CIO du comité olympique.
Ouais, CIO.
Il est président du CIO. Il dit, putain, mais c'est super ça. On cherche un gars justement pour trouver des idées un peu nouvelles, pour faire une émission de télé autour des Jeux Olympiques. Et tout d'un coup, toi, parce que t'as juste fait à fond un truc qui fait tes potes, tu te retrouves à une position dans le sport où tu dis putain, mais c'est incroyable que je sois là. Je fais bah oui, mais mec, quand t'as fait le grand frisson, c'était un sacré grand frisson. Ça m'a parlé.
Grave. Et donc, le grand frisson.
Donc, c'est cette idée-là, ce qu'on résume souvent en disant des fois, tu fais que trois vues, mais ça se trouve, dans les trois vues, il y a Spielberg.
Et donc, le Grand Frisson, il y a eu 4 éditions, je crois, qu'on grossit petit à petit.
Vraiment. 4 ans,
on est vraiment sur des vraies Olympiades, quoi. Ça a commencé en 2008. Et à chaque fois, il y a un peu plus de monde et un peu plus de potes. Et donc, j'invite des potes, une soixantaine de potes. Là, c'était la dernière fois où il y a un week-end d'épreuves avec des équipes. Et donc, 6 mois avant, j'annonce les équipes. Ensuite, j'annonce les épreuves et tout le monde s'affronte. J'ai inventé un système, en fait, où parce que je voulais, le seul truc que je voulais pas, c'était faire chier les gens, en fait. Donc, ceux qui veulent juste boire, ils peuvent juste boire. Et en fait, il y a un système où chaque équipe, je tire au sort le jeu. Et en fait, ils doivent lancer leur champion, en fait. Donc, si quelqu'un veut se planquer toute l'après-midi à rien faire, il peut. Si quelqu'un veut faire toutes les épreuves, il peut.
C'est comme si Teddy Riner disait non, moi je vais rester sur le banc tranquille.
Ouais, exactement. Et donc, c'est pas des trucs sportifs, c'est pour passer un bon moment avec tes potes, un week-end, tu vois. Et du coup, voilà.
Il y a 4 ans. Les Olympiades, c'était quoi les moments forts du
les
grand
moments
frisson.
Forts, il y a eu vraiment...
Qu'est-ce qu'il y a dans les grands frissons, les épreuves cool, quoi.
Concours de... Je me suis aperçu que les épreuves les plus simples étaient les plus marrantes. Par exemple, je dis un mot, il faut que tu dises un mot qui a un rapport avec ce mot-là. C'est le jeu le plus con du monde. Hein. Et bah, figure-toi que très vite, en fait, il y a des gens qui disent n'importe quoi.
Quand tu disais, ouais, faut qu'on trouve des jeux à faire à Clem, mais je dis, mais on va juste lui demander des jeux, il va nous en dire plein. Donc, attends, tu dis un mot, je dois
genre,
dire un mot.
Genre, je te dis, mais ça dépend, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Ça va durer très longtemps. Si je dis, par exemple, jardin, faut dire que des mots qui sont en rapport avec le jardin.
Le champ lexical du jardin, quoi.
Exactement.
Vas-y, on en fait une.
Mais genre, comme ça, en boucle, genre.
Ouais. Que quelqu'un... Mais là, nous, ça peut durer longtemps, je pense.
Vas-y.
Ok, jardin, donc je vais dire une truelle. Voilà.
Non, par exemple, arrête. C'était juste pour le plaisir de dire. Dit, parce que vous êtes tellement des génies que ça va durer des années. Et on est tous, je m'attendais à ce que toi aussi tu le fasses et qu'on soit là. Putain, mais il est hyper dur ton jeu, il est dingue.
C'est moins dur qu'un Johnny Depp.
Ouais.
C'est ça que je voulais dire. Et déjà, les Johnny Depp peuvent durer longtemps. Mais et les jeux les plus simples.
On en fait ça, j'en ai joué.
Ok, alors attends, vas-y, on va faire le tennis.
Raquette.
Basket.
Balle.
Rebond.
Filet.
Arbitre.
Faute.
Chaise haute.
Roland Garros.
Tribune.
Soleil dans les yeux.
C'est précis. Polo blanc.
Commentateur.
Orange.
Terre battue.
Merde, je sais pas du nom. Terre, comment on appelle ? Ah, Wimbledon, c'est quoi ?
C'est gazon.
C'est pas
Wimbledon, tu vois. Wimbledon.
BNP Paribas.
Ils ont réussi à nous le mettre dans la tête. Cédric Pioline. Après, si je commence à dire des noms de famille, ça va.
Agassi.
IBM.
Waouh, Sampras.
Kilomètre heure.
Ralenti.
Ace.
J'allais dire Ace. Service, on l'a pas dit, je crois.
Toc du champion du monde, là, qui arrête pas de se gratter le nez avant de jouer.
Ah, ok, on fait des longues périphrases.
C'est marrant. C'est marrant.
Ça va jamais finir, hein, je pense.
Ah.
Wow, ça va finir, la malédiction.
5, 4.
Trophée.
3 trophées.
Montée au filet.
Ramasseur de balles.
Indian Wells.
Double faute.
Oh.
Personne qui tient le parapluie.
Marie Pierce.
15A. Ah, il n'y a pas 15A, 40A. Si, c'est 15A, c'est 15A.
Tu peux avoir. 15A, tu peux, ouais.
Oh,
ouais.
Cinq, quatre, trois, deux,
place un peu cher. Place un peu cher.
Silence, s'il vous plaît.
Lacoste.
Je commence à sécher.
5.
Man.
4.
Gradin en plastoc.
J'ai dit gradin, tu dis gradin en plastoc. Ouais,
t'as dit gradin ?
Ah non, j'ai dit tribune.
Oui.
Ça marche, on fait les synonymes.
Ok. Amorti.
Coup droit.
5. 4. 3.
Lui, vu que son émission, elle est à un certain dynamisme, donc il est prêt à faire pour ça.
Raquette.
Non, j'ai perdu, putain.
Et la finale.
Non, c'est la finale, moi je suis chaud sur la finale.
T'es chaud sur la finale.
C'est moi qui donne le thème, alors.
Vas-y.
Ah, on refait un thème en plus.
Ah non, la finale. C'est genre le dernier mot.
Ouais, ah oui, bah oui, c'est vrai, sinon c'est trop
rapide.
Putain, sinon j'ai un autre jeu qu'on faisait avec mes potes.
Allez, vas-y.
Le jeu du blaze, le JDB. On peut, on a le temps.
Bah si, de ouf, on a que ça à faire.
Alors,
c'est notre vie là.
Maintenant ça va être ça. Il reste combien de temps, on fait ça. Allez, juste
allez,
à la
on
fin.
Fait ça.
Je vais dire un nom propre de personne. On peut partir ou sur le prénom ou sur le nom.
Vous c'est Johnny Depp.
Non, je vais dire Thierry Henry. Tu peux partir ou sur un Thierry ou sur un.
Ah d'accord.
Ok.
Mais il faut que le nom soit un nom ou le nom peut être un prénom. Parce que là, Henry.
Non, tu peux partir. T'as le droit de le.
De twister.
Vous voyez comment on a créé le Johnny Depp, voilà.
Et
c'est dans ces réunions-là.
La prononciation compte, pas l'orthographe.
D'accord.
Ok, donc je vais dire Thierry Henry.
Et donc moi, après, j'ai le droit de dire Thierry Roland, par exemple.
Thierry Roland. Et lui, il peut partir ou sur un Thierry ou sur un Roland.
Il faut mettre que des doubles noms.
Un exemple. Non, pas forcément.
Mais le nom de famille, ça peut, par exemple...
Mais si le nom de famille peut passer
en... Je peux dire Roland Dumas.
Tu peux dire Roland Dumas. Je peux dire Alexandre Dumas.
Marguerite Dumas.
C'est qui? Ah, bah les masques.
Non. Ah non, c'est Duras. Non, c'est Dumas.
Ouais, Duras. Marguerite Duras. Ouais. Dumas.
Mais comment s'appelle la meuf qui présente les masques? Alexandre machin Dumas, non? Elle s'appelle pas Dumas?
Mais c'est pas Marguerite, je crois que tu viens de confondre. Donc là, tu serais éliminé.
Moi, je suis éliminé.
T'es éliminé. Tu veux qu'on fasse la fin?
Ouais, on remet un sur qui?
Alexandre Dumas. C'est vous, on fait la finale, par contre.
Alexandre Dumas, Alexandre III.
Alexandre Delperrier.
Alexandre Astier.
Comment il s'appelle, son frère?
Simon.
Simon Astier. Si.
Lionel Astier, vas-y.
Michel Simon.
T'aurais dû dire Lionel Astier, après, t'es en galère. T'aurais pu dire Astier en Astier.
C'est vrai, Michel, c'est vrai, c'est ça. Après, il y a des stratégies. Michel Simès.
C'est sans fin ce jeu en fait, c'est juste parce que j'ai confondu.
Michel Berger.
Attends. Gerhard Berger.
Putain.
Maintenant, t'as dit la prononciation, pas l'orthographe.
Et l'orthographe marche aussi.
T'as dit la prononciation compte, pas l'orthographe. Donc Berger et Berger, c'est pas la même chose.
C'est vrai, alors du coup, enfin, j'annule cette règle et je la.
Maintenant, t'as perdu.
Bravo, Pierre. J'ai gagné un jeu que je ne connaissais pas il y a 3 minutes.
C'est la chance du débutant, ça.
Le JDB, bah oui. Est-ce qu'on ferait pas un petit Johnny Depp, si vous voulez?
C'est la CDB, c'est la chance du débutant.
On fait un Clément Cotentin?
Ah ouais, bah oh, c'est trop d'honneur. Si, on y va.
Vas-y. Clément Cotentin.
Clément Aurélien Cotentin.
Ah, il est parti sur la facilité.
Enculé.
Cléopâtre ment Aurélien Cotentin.
Cléopâtre ment Aurélien Cocorosi Tantin.
Cléopatrick Hermouz ment.
Patrick Hermouz, c'est quoi?
Patrice Kermouz.
Patrice.
Patrice.
Putain, j'ai déjà perdu.
Patrice Kermouz.
Ouais, Patrice Kermouz, c'était le pote de Chavannes, très bien.
Qui faisait des inventions.
Ouais, c'était le Bonaldi de Chavannes.
Mais j'ai déjà perdu, du coup. Bah, j'ai perdu.
À toi,
je vais me faire une clémentine.
Oh, j'ai oublié. Cléopâtre ment Aurélien Coco Chanel Rosy Tantin.
Cléopâtre ment Aurélien Coco Chat Nelly Furtado Rosy Tantin.
Cléopâtre Ic Hernandez ment Aurélien.
Il est déstabilisé. Va-t-il réussir?
Coco Chanel Furtado. Ouh, Rosie.
C'est un bel obstacle.
Tantin.
Cléopâtre Hernandez ment Della Aurélien Coco Chanel Furtado. Furtado. Ouais, mais je sais plus, j'avoue. Furtado. Ouais. Vous décidez.
C'est bon.
Si je décide, t'as perdu.
Bon, j'ai perdu.
Eh ben, j'ai perdu.
Ça n'a pas de sens. L'arbitre.
C'est vrai.
L'arbitre, il met des buts.
S'il a
des.
Eh ben, bravo.
Côté
trip,
celui-là. Là, tu t'es auto-soulé.
Non, je ne suis pas auto-soulé. C'était,
tu voulais surtout qu'on fasse un autre jeu. Dis-nous un jeu.
Non,
mais si, moi, je veux les jeux.
Un autre jeu, tu veux faire des jeux.
Les jeux de Clément. En plus, après, on va les faire dans les autres émissions. Il va devenir rédacteur de.
D'un bon moment.
On va faire un spécial, un bon jeu, un bon frisson, ouais. Et bah, l'animer et tout avec tous les invités.
Est-ce que dans les commentaires, les gens vont dire, tain, il parle trop comme Aurel?
Je sais pas, souvent on me le dit. En fait, ça, j'ai analysé, parce que ça m'a permis d'analyser quand même les 3 ans de doc là. En fait, je parle comme Aurel dans les situations où je suis en galère. En fait.
Mais non, mais tu dis quoi? Tu termines.
Tout simplement.
J'ai bien analysé. Et donc, contre la merde.
Et donc, je me suis dit. Ah, mais en fait, Aurel, il parle
t'étais
comme
où ça. T'étais où, chérie? Ah ouais, c'est embêtant, mais en fait,
j'ai
tu vas
peur
rire.
De c'est perdre. Marrant. Je peux pas chanter du Aurel, je suis en galère.
Tu sais, si la terre est ronde...
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné?
Waouh, il y en a 1000. Vous?
Non, pas forcément.
Toi,
non.
Alors toi, alors je peux faire chacun.
Si tu veux.
Ah, mais on, c'est pas le sens, nous deux.
Non, mais je veux commencer par vous. Alors, je peux faire par vous.
Vas-y, la question ultra prétentieuse. Qu'est-ce qu'on t'a apporté à chaque invité? Qu'est-ce qu'on t'a apporté dans la vie?
Non, mais alors, puisque tu le dis, j'en ai un de vous. Toi, Kian, tu m'as dit Il y en a un que j'avais déjà raconté dans l'épisode sur Bloqué. Et il y en a un autre qui est...
Il n'est pas avare de conseils, hein, ce qu'il y a, non.
C'est un peu des daronnades que je fais. J'ai du mal à me retenir, mais bon, j'essaye d'aider les gens.
Donc le premier, je le rappelle, c'était un auteur sans deadline, c'est un mec au chômage. Ouais. Ça, c'est la phrase dont je me suis rappelé éternellement, enfin dont je me rappellerai éternellement. Et la deuxième, c'est, mais tu sais, il y a personne qui un jour sonne chez toi et dit bon, bonjour, vous êtes auteur. Voilà. Et en fait, donc tu m'as dit, mais moi aussi, pendant super longtemps, je me suis dit, mais j'ai aucune légitimité, pourquoi ? Et cette phrase-là, elle m'a vachement aidé parce que je me suis dit, c'est vrai, en fait, à un moment, il n'y a personne qui te dit, ouais, c'est bon, t'es validé, c'est des métiers un peu bizarres, en fait. Tu as toujours l'impression que t'as pas encore, en plus, accompli vraiment ce que tu devais faire, etc., quoi. Et ça m'a vachement aidé parce que je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, si t'attends que quelqu'un te dise, c'est bon, tu peux, c'est bon, t'es valide, tu peux attendre éternellement, quoi.
Exactement.
Et donc ça m'a grave aidé.
J'en mets.
Et un autre beaucoup plus technique d'écriture de Bruno qui est, arrête les jeux de mots. Je sais plus si je l'avais dit, qui était pas dit sur ce ton-là quand même. C'était beaucoup plus sympa.
Moi, c'était un jeu de mots.
C'était les jeux de mots. C'est sympa avec tes potes. C'est pas très marrant à la télé. Voilà, en gros.
Ah ouais, pour bloquer.
Ouais, pour bloquer parce que j'étais beaucoup.
En fait, on en a fait un épisode complet des jeux de mots. Comme ça, après, c'était fait, quoi.
Comme ça, après, c'était fait,
un peu
mais...
Comme dans Bref, quand on a dit, viens, on fait un épisode avec tous les guests.
Ouais, c'est ça.
Dis, viens, on se débarrasse des jeux de mots, parce qu'on a envie de les dire là. T'as pas la pêche et les trucs comme ça.
Grave.
Et comme ça, ouais, après... Non, en fait, c'est surtout... Non, en fait, je reviens sur mon conseil, alors. Ah. Pour moi, c'était les jeux de mots dans Bloqué. C'est pas vraiment dans l'esprit... Sauf s'ils sont vraiment mongols.
Ah, parce que les persos sont pas des mecs jeux de mots...
Ouais, c'est pas... Moi, c'était mon impression, mais...
En tout cas, ça m'a aidé à tirer un
en
autre...
Cas, c'est pas une chute.
Ouais.
Je pense que c'est peut-être plus parce que tu sortais de tes situations et des trucs avec un jeu de mots, comme si c'était la fin du truc.
Ouais.
J'étais un jeu de mots, ça peut être qu'un prout. C'est un rebond, tu vois, quand il dit le mec de Manimal, il est mort. Ah ouais, ils l'ont empaillé. L'autre, il dit, ils l'ont emmanupaillé. La blague, c'est pas emmanupaillé. La blague, c'est ils l'ont empaillé.
Mais...
Surtout, il y a une situation dans le bloqué. C'est qu'il fait ça pour énerver, parce qu'il sait que ça l'énerve.
Oui, c'est ça.
Si c'est juste des jeux de mots, ça marche. Si c'est juste, voici des jeux de mots, ça marche pas. Si il fait des jeux de mots, rien que parce qu'il sait que ça fout le seum à son pote.
C'est ça, en fait, c'est l'histoire et la situation qui prime et tout. Et je me suis rendu compte, il y a même moi, hein, je basais des fois même des concepts entiers, juste sur papier, hein, sur des jeux de mots. Donc même des noms de restaurants, maintenant que je vois, où je me dis, ah, vous avez parié sur un jeu de mots, c'est pas une bonne idée, votre concept, il est peut-être pas tout à fait, tu vois. En fait, je me dis, tout miser sur un jeu de mots, pas une très bonne idée. D'expérience. Hein. Après, il y a sûrement des exceptions. Donc, ça m'a grave aidé.
C'est vraiment un mec qui fait toute sa vie, mais parce qu'il veut tout le temps qu'il y ait un jeu de mots, tu vois. C'est ce que je veux dire.
Genre, il fait un...
Je sais pas, il se rend compte qu'il trouve un jeu de mots, mais pour ça, il faut qu'il ait un enfant. Donc, il fait un enfant, quoi.
C'était un perso d'Aurel dont on avait parlé, tu sais. Aurel, il avait ce perso-là qu'il avait écrit, qui était un mec qui vivait pour les jeux de mots, quoi. Et donc, il arrivait à la caisse et tout, et la dame, elle lui disait... lui disait, et vous payez comment ? Je reviens ! Et il arrivait en
karting,
il disait, je paye en carte !
Je peux payer en carte, oui, je reviens !
Et du coup, c'était un perso d'Aurel qu'il avait. Et donc ça, c'est un conseil que... Toi et toi, vous m'avez appris. Et après, la phrase que je cite super souvent, que je cite d'Aurel, c'est un morceau qui n'est pas du tout un morceau des plus connus, qui s'appelle La Morale, qui était dans Le Chant des Sirènes. Et il dit à un espèce d'ami fictif qui est un peu lui, un peu ses potes, qui est un peu gringe.
qui est beaucoup gringe.
Mais qui est 98%
gringe. Non, en vrai, en plus, c'est vraiment, il y a des traits de personnalité à lui, peut-être même à moi. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de trucs. Et il lui dit tes défauts sont devenus ta personnalité. Et du coup, ça m'a vachement guidé dans ma vie, même perso, en me disant ouais, en fait, si tu penses que c'est ces choses-là qui font de toi ce que tu es, et t'es en train de te mettre le doigt dans l'œil, parce que sûrement que les gens ne t'aiment pas parce que t'es râleur, en retard, fêtard jusqu'à 5h du mat, je sais pas, enfin voilà, c'est pas tes défauts qui font ta personnalité. Souvent, les gens t'aiment plus pour tes qualités que pour tes défauts, quoi. Donc si tu peux essayer petit à petit de te délester de tes défauts.
Elle le dit dans le docu.
Ah ouais ?
T'as oublié ?
Non.
Il me parle du fait que...
Ah mais grave,
c'est
mais
cool,
oui,
mes
bien
défauts,
sûr.
J'en ai fait des blagues, on a bien rigolé sur mes défauts, mais en fait, non. Si je les garde, ça reste des défauts.
Ça reste des défauts, exactement.
C'est tellement smart quand tu dis ça.
Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu as réussi à les retourner, tu as réussi à en faire une qualité, une blague, mais en fait, tu les as toujours, quoi. Donc, à un moment, bah, tu te rends compte qu'il faut essayer ouais, d'avancer, quoi. D'avancer. Donc, c'est vraiment une phrase que j'ai gardée super longtemps.
Parce que moi, il y a une phrase d'Aurel à laquelle je pense souvent, c'est « si tu as l'impression que personne ne te comprend, c'est parce que personne ne te comprend. » Et vraiment, vrai. Souvent, maintenant, elle me revient, cette phrase. Dès que je me sens incompris, je me dis « oui, mais c'est le cas. » C'est pas une impression, c'est vraiment, juste ouais. C'est normal, personne ne te comprend. Tu vois, il y a un truc genre, tu comprends pas vraiment tout le monde, personne ne se comprend vraiment, donc ouais. Sois pas aussi embêté ou révolté que par cette impression que personne ne te comprend, c'est tout à fait normal, personne ne te comprend.
Et une phrase d'Aurel que j'aime beaucoup, alors c'est dans les phrases d'Aurel, c'est « tu t'attaches, tu t'arrêtes aux défauts des autres et c'est ton pire ouais. défaut ». Putain, ça c'était Wham pendant longtemps. À trouver le moindre défaut et à dire « bah tu vois, il y a un défaut, c'est bon, j'arrête ». Et en fait, c'est un vrai défaut. Ça t'empêche de connaître les gens en profondeur.
Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'il faut accepter que les défauts viennent avec des qualités c'est et inversement.
Bah grave. Et ce que tu dis, c'est un truc aussi que j'ai appris dans les 2-3 dernières années. Là. C'est cette idée de, ouais, de point de vue. Et pendant super longtemps, j'ai cru que mon univers était le seul univers qui existait. Quoi, tu vois et c'est quelque
Truman
chose... Ouais, un peu, tu vois, c'est quelque chose de très moderne. Enfin là, des dernières années aussi, de se rendre compte.
Ouais, Twitter.
Ouais, de mon univers, la façon dont je pense, mon humour, etc., n'est pas le seul et unique qui existe, quoi. Donc déjà, et après, il faut voir ce qu'on fait avec cette vérité. Mais ma déjà, prendre conscience de ça et tout, c'était un processus, quoi. Et
bah avec ça, tu augmentes ton empathie. Pas seulement la sympathie, tu sais, l'empathie sympathique, mais tu augmentes complètement ton empathie. De dire, attends, plus ça va, plus je vais essayer de comprendre. C'est ce qu'on voit dans un docu, en fait. Je pense aussi ça qui te passionne dans un docu. C'est de dire, ah ok, limite, il y a des docus sur des tueurs en série qui, quand ils reviennent sur toute la vie, ils arrivent à te mettre, même si tu n'es pas d'accord avec un tueur en série, mais à dire, ah ok, je comprends.
Ouais,
je
ne
comprenais pas. Là, maintenant, quand on me raconte qui était son père, qu'est-ce qu'il a vécu, quelle était la maladie mentale qu'il avait, qu'est-ce qu'il, tu vois, tu fais, ah... Et en fait, en augmentant ton empathie, ça te permet de prendre un recul qui fait que tu ne bloques plus sur les défauts des gens.
C'est vrai. Tu essaies de comprendre et de te mettre à leur place aussi.
Tu dis non, mais de son point de vue, c'est tout à fait cohérent ce qui est en train de se passer.
C'est très dur à faire, mais oui.
Je trouve ça trop facile.
Clément, est-ce que tu veux recommander... on a fait pas mal de recommandations documentaires. Est-ce que tu veux recommander une œuvre, un truc que t'as kiffé?
À manger, oui.
Récemment.
Je me mets en mode genou.
J'ai jamais dit non, je crois. Recommander, qu'est-ce que j'ai vu récemment que j'ai kiffé? Je peux prendre mon temps?
Bien sûr. Mais vous, t'as quelque chose à recommander, toi, en attendant?
Ah ouais.
C'est bon. Vas-y, c'était un court temps.
En ce moment, c'est peut-être un hit de ouf. Je sais pas, j'étais un peu dans une grotte pendant 2 ans.
Squid Game.
Je sais, ouf. J'ai même pas vu encore.
Tu vas kiffer Squid Game.
Ouais.
Surtout la fin quand.
Non, je regarde Sex Education. C'est un méga hit de ouf ou pas?
J'ai pas c'est vu, mais pareil, ouais. Pareil, ouais.
Ok. Et en fait, pendant un moment, je regardais plus trop de... surtout sur Netflix.
Tu le montrer à tes enfants bientôt. Hein. Tu dis, putain, ça...
Ouais, grave.
Je pense que les parents, là, beaucoup disent, putain, mais la chance qu'ils vont avoir nos enfants, nos séries, elles sont trop cool.
Mais grave, ils vont apprendre plein de trucs.
Nous, on regardait de la merde.
Non,
on regardait des...
Il y avait les années collège.
Avec mais les non, non, on regardait des trucs, ouais. C'était pas du tout, ça t'éduquait de rien du tout. Je regardais un dessin animé, ça disait va embrasser la princesse sans son consentement pendant qu'elle dort et nique le monde.
Mais...
Eux, ils regardent Pixar, Coco, vice versa, comprends tes émotions.
Ils vont être trop intelligents, ouais, ouais. Grave, ils vont être.
J'avoue.
C'est quand même, ça rend service les dessins animés.
J'avoue.
Non, je comprends rien au racisme, regarde Zootopie.
Ouais, grave, c'est bon.
T'as vu, voilà, c'est comme le lapin et le renard, ils sont gentils les deux.
T'as compris?
Voilà. Le renard, il est méchant, mais c'est pas de sa faute à un moment. Ok, voilà.
Et donc, je regarde Sex Education et je trouve ça cool, justement. Ouais, c'est pas du tout. C'est vraiment moderne. Et à la fois, ils ont fait exprès que ce soit assez intemporel pour montrer que c'est des questions qui ont lieu depuis super longtemps. C'est juste qu'avant, on en parlait peut-être moins. Et je me dis, ouais, exactement. Je me dis, putain, si mes enfants, ils voient ça, j'aurais pas besoin de leur en parler, du coup. non, mais je me dis, ouais, c'est cool, c'est chambé. C'est vrai que c'est le genre de série qu'on n'avait pas à l'époque. À la base, je croyais que j'allais juste regarder un truc de teenager pour pas trop réfléchir et tout. Et c'est vraiment cool. Donc voilà.
Alors, en attendant, moi, je recommande une chanson de Tim Dupe qui s'appelle Une autre histoire d'amour. Okay. Une très belle chanson. Allez écouter, c'est super. Allez, après, laissez-vous aller dans les playlists de Tim Dupe, c'est assez cool. Ce qu'il écrit et tout. Ouais. Jeune gars et tout, de 25-26 piges, je crois, et très, très talentueux.
Il y a un doc aussi qui m'a grave influencé. C'est un doc assez connu, mais qui s'appelle Exit Through the Gift Shop. Donc, ça veut dire sortez par la boutique du musée. Enfin, par la boutique de cadeaux. qui s'appelle Faites le mur en français, et donc qui est un doc avec Banksy dedans et un artiste qui s'appelle Mr Brainwash, et qui est super cool parce que c'est un mec pareil qui commence à filmer un jour des street artistes et qui filme et qui filme et qui filme et qui filme et qui un jour essaye de devenir lui-même artiste. Et c'est super cool, il est assez connu comme doc, mais ça m'a bien bien influencé aussi. C'était vraiment le doc est ouf, le titre est ouf, tout est chambé, il y a même des théories, il y a les gens qui ont chacun leur théorie sur ce doc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux.
C'est un des documentaires phares de la culture, vraiment, du street art en plus.
Grave, ouais, qui est un univers que je connais pas du tout. Et c'était une des influences aussi, c'était très cool ce doc.
Navo, t'as trouvé?
Ouais, moi je recommande Exemplaire, qui est une boîte d'édition de bouquins. Une espèce de maison de... Je sais plus comment on dit, pas une maison de disques, merde, j'ai perdu le mot. D'éditeur de bouquins. Mais qui fait de l'auto-édition, surtout drivée par les auteurs, avec
ça,
un financement participatif. Et ils ont pas mal de projets BD, etc., qui sont super, et où ils remettent l'artiste au centre d'un point de vue du financement, justement grâce au fait qu'on peut pré-financer, et donc prendre moins de risques, et donc sortir l'argent qu'il faut, faire les exemplaires qu'il faut, et c'est les auteurs qui sont déjà là et qui arrivent sont super. Donc je vous invite à aller acheter les bouquins édités par Exemplaire.
Merci les gars, merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un bon moment.
Bah, merci à vous de l'invite, c'est trop cool, merci beaucoup.
Est-ce que je peux me permettre de t'offrir un cadeau?
Bah de
on
ouf.
On a un Horace, la marque de crème et de cosmétiques.
Trop bien, bah merci.
Un cadeau, tu repars avec des petits produits.
Trop bien, bah j'en ai un.
J'ai quoi d'autre?
Abonnez-vous.
Ok. Merci d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne vous abonnez pas, c'est pas grave. Faites votre vie. Mais c'est mieux quand vous vous abonnez, quand vous likez le bouton like. Ça recommande l'émission.
Quand vous
à
likez le
gens.
Bouton like. On ouais. peut liker les boutons like. Ils vont trop loin maintenant.
Tu peux liker le bouton dislike.
Liker les boutons like.
Exactement.
Putain.
N'hésitez pas à faire ça. Partagez l'émission. À en parler autour de vous. Merci pour tout. Si vous nous écoutez en version audio, sachez que bah, ça nous fait plaisir que vous nous écoutiez.
Est-ce qu'ils peuvent la ripper et la mettre sur Dailymotion?
Mais oui, bien sûr.
Ouais, chambé, cool. Faites-le là.
Si vous voulez faire des trucs créatifs avec un moment, vous voyez des moments un peu gaulerie, vous dites, tiens, ça ferait un super truc d'animation ou quoi que ce soit, et vous voulez vous approprier nos discours, allez-y, amusez-vous, ça fait plaisir.
Ça fait longtemps que j'ai pas vu des bons YouTube poop.
Ouais, faites un YouTube poop, tiens.
Bah, allez-y, amusez-vous.
J'adorerais
en avoir. Il a envie de se faire YouTube pooper.
Il veut se faire pooper.
Poupez-le.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.